Bonjour.
Oui, nous allons commencer. Je vais juste dire quelques mots pour présenter Elena et pour présenter et Laurane qui vont assurer cette première séance du séminaire sur les pratiques numériques en SHS qui ont l'intention de couvrir tous les domaines des SHS, enfin, ou du moins le plus grand nombre de disciplines possibles. Et évidemment, les séances sont plus ou moins ciblées en fonction des champs disciplinaires, ce ne sont pas tous les mêmes. Et comme Elena Pierazzo est pour un mois professeure invitée au Centre de la Renaissance, et qu'elle est actuellement d'ailleurs la directrice du board, du bureau du council, ou je ne sais plus, de la.
The board.
Du board, voilà.
OK.
TI Encoding Initiative, donc nous avons là. On est une éminente spécialiste de la TUI, de l'encodage, et toujours prête et toujours extrêmement disponible pour expliquer ce que c'est que l'encodage, ce que c'est que la TUI. Donc je profite pour annoncer aussi l'atelier qui aura lieu mardi prochain au CESR sur l'encodage des brouillons, pour ceux qui y a encore... pas beaucoup de place, mais enfin quand même quelques-unes. Ce sera dans une petite salle au CESR. Donc toute la journée, notamment l'encodage des manuscrits dont elle est spécialiste, entre autres choses. Mais sinon, Elena est aussi, ou d'abord, spécialiste de la Renaissance, et notamment de Dorni. Et elle donnera également une conférence le 2 décembre sur l'édition de Dorni. Ce sera au CESR et ce sera à 17h30. Voilà. Donc plusieurs manifestations, plusieurs occasions de travailler aussi avec elle et de l'écouter présenter les derniers développements sur la TEI. Et puis, donc là, ça sera la première partie du programme d'aujourd'hui. La deuxième sera assurée par Laurane Bertrand pour les aspects plus techniques. Nous avons décidé que pour ce séminaire de cette année, il y aurait... surtout en deuxième partie du séminaire, des éléments d'apprentissage, on peut dire, même si on ne rentre pas dans les détails et que ce n'est pas vraiment un atelier au sens complet du terme où on apporte toutes ces données et on travaille dessus. L'idée, c'est quand même, c'est de rentrer dans les aspects techniques des différents domaines qui vont être abordés. Et je crois que c'est important. Ça permet de ne pas se contenter justement d'une vision... soit uniquement parolière de l'encodage et des humanités numériques. Et donc les autres séminaires, je suppose que vous avez vu le programme, vont continuer avec cette particularité de séminaire en deux parties. À partir de janvier, le séminaire sera ouvert. Il est déjà ouvert en fait aux doctorants, à tous les doctorants, doctorants de l'école doctorale de Tours, parce que l'école doctorale d'Orléans ne s'est pas encore ralliée à ce principe, mais je ne désespère pas que ce séminaire soit aussi validé comme séminaire de doctoral également à l'université d'Orléans. En tout cas, c'est fait pour Tours, à condition qu'il y ait suffisamment d'inscrits. Donc ça, on verra ce qu'il en est de notre succès. Et donc les séances à partir de janvier seront incluses dans le programme de l'école doctorale, dans une des options qui peuvent être choisies par les étudiants. Voilà, ce séminaire est censé refléter peut-être pas tout, évidemment, ce qui se fait dans les humanités numériques et dans les humanités numériques au sens large, c'est-à-dire incluant les sciences sociales, mais on essaye quand même de donner un panorama aussi large que possible. Voilà, je vous donne la parole, et puis Elena, tu peux dire quelques mots de plus sur ta carrière, si tu veux.
Merci. La première chose à savoir, c'est que mon français n'est pas très bon. J'espère que vous allez me comprendre. Si vous ne comprenez pas, me faites des signes, et vous pouvez hurler même d'Orléans.
Et tu fais en anglais, si on ne comprend pas.
Oui, je passe en anglais.
Voilà,
mes diapositives, elles sont en anglais. Parce que je peux parler en français.
Oui, vous entendez bien?
On l'entend très bien. En français, c'est bien.
OK, merci. Donc, les diapositives seront en anglais parce que si parler, c'est difficile, écrire, c'est impossible. Donc, je n'arrive pas vraiment à écrire en français d'une façon qui c'est... que c'est acceptable. Donc, je les écris en anglais. Et le travail que j'ai fait à Londres, c'est surtout sur les éditions numériques. Donc, c'est vrai que je m'occupe de du codage des textes, text encoding, mais je normalement l'utilise pour faire des éditions des manuscrits et des textes anciens. Donc, c'est ça que c'est mon spécialisme. J'essaierai de démontrer pourquoi c'est une très bonne idée de le faire et qu'est-ce qu'on on a qui quels sont les avantages d'avoir des éditions numériques des textes anciens. Je vais commencer. Alors, qu'est-ce que je vais couvrir dans une heure et de quelque chose, ce sera de pourquoi faire des éditions numériques et comment les faire. Donc, la première question, c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle c'est une bonne idée à le faire. La première, pour moi la plus importante, c'est que le web, le numérique, nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant en imprimant. Donc, il y a des choses nouvelles qui se passent, qu'on peut faire, de la nouvelle recherche, qu'on peut ouvrir et des nouvelles fonctionnalités qui nous donnent une vue différente sur le matériel. Et puis, par le fait qu'on le met en ligne, c'est plus facile de le lire, d'accéder à l'information. Surtout quand on parle des manuscrits et bien d'imprimer des matériels qui sont très rares. Ou bien on va dans la bibliothèque où ils sont préservés, où il n'y a rien à faire, on ne peut pas le voir. Donc, le fait qu'on met en ligne des matériels, ça donne la possibilité à des personnes qui n'ont pas l'accès aux bibliothèques d'avoir les matériels. Mais je pensais que la meilleure façon de vous démontrer pourquoi c'est une bonne idée de faire des éditions, c'est de démontrer des éditions. Et donc, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ce que je vais faire, c'est de sortir comme ça et de commencer avec cette édition ici. C'est une édition d'un manuscrit médiéval. Et c'est une édition documentaire, comme on dit, et c'est présenté à gauche avec la page du manuscrit qu'on peut regarder, on peut voir d'autres pages. Et à droite, il y a la transcription. Transcription qui c'est dynamique parce qu'on peut, par exemple, expandre les abréviations. Vous savez que dans les manuscrits médiévaux, les textes sont abrégés et donc on peut expandre ou les contraires. Ou puis on peut. Vous voyez ici qu'il y a une note marginale au-dessus là et on peut les cacher parce que c'est une autre. Et donc ils ont été marqués avec une autre main, donc on peut les cacher ou aussi on peut effacer les rouges, la rubrication qui c'était, on sait justement que c'est une autre main qui l'a fait. Donc cette transcription qui devient interactif et à second de la chose qu'on est intéressé à faire, à lire les textes en distraction, à voir exactement comme il était écrit, à voir l'orthographie, on peut le faire. La seconde édition que je voulais vous montrer, c'est Samuel Beckett Archive, The Digital Manuscript Project. C'est l'édition qu'ils ont commencé de tout manuscrit de Samuel Beckett, qui sont bilingues, quelqu'un sont en français, d'autres sont en anglais. Et il y a tous les différents brouillons de ces textes-là, c'est Steering Steel. Et on voit qu'il y a beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? On peut voir un texte à la fois, comme ça. On peut lire les manuscrits, on peut voir la page comme ça. On peut faire des comparaisons des différentes versions. Il y a quelque chose. Peut-être. On peut faire comme ça. Il y a des paragraphes. On peut les comparer entre les versions. Comme ça, je prends la première, je prends la seconde version et on peut faire la comparaison en parallèle. Donc, on peut le voir la différence qu'il y a. on fait la comparaison par paragraphe, et donc on peut choisir un paragraphe comme ça, et le voir dans toutes les versions. Donc, version par version. On peut les comparer comme on a vu auparavant, mais comme ça, par exemple, on peut faire la comparaison comme ça, et voir par. Puis, dans les documents, si on entre dans un document comme ça, on peut voir les textes comme il était, l'image texte, comme ça. Donc, on a une zone dans les manuscrits qu'on peut afficher avec la transcription et on peut regarder vraiment ce que c'est. Et ce que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Donc, il y a la souris qui passe sous l'image et on révèle la transcription du texte. Le troisième que je vais présenter, c'est un manuscrit qui est en flamand. On dit comme ça? Dutch? Flamand? Ok. Et on peut regarder les textes dans l'édition critique, comme ça, où on peut choisir l'un des témoignages du texte, comme ça, et comparer avec tous les autres ou seulement une partie des manuscrits. Quand ils s'affichent comme ça, et, pardon, parce que mon texte va à. On peut voir les variantes de chaque, quand on passe la souris, il y a des parties de texte qui vont devenir en gris, et on peut voir la variante, l'apparatus criticus du texte. Et la chose qui est intéressante est que cet apparatus se change du texte base qu'on choisit ici. Donc la possibilité de choisir et de le générer dynamiquement. Les textes. On peut comparer chaque version avec toutes les autres versions ou l'édition critique finale avec toutes les autres versions et avoir la part critique. Enfin, c'est une édition, c'est un prototype que j'ai réalisé avec Julie André de l'ITEM. Ce sont des pages, trois pages de Proust, d'un brouillon de Proust. Et ici, la transcription, ce n'est pas des côtés, mais c'est dans les textes qui s'affiche en clic selon l'ordre qu'on a reconstruit, qui était écrit. Donc, c'est l'ordre d'écriture, ce n'est pas l'ordre qu'on va lire les textes. Donc, ce n'est pas la narrative ici. Et vous voyez qu'il s'affiche comme ça, puis on peut les cacher et changer d'ordre si on n'est pas content. Donc, on peut faire apparaître une première celui-là et puis celui-là. Et on peut les bouger et faire des petites choses. On a ici une barre chronologique qui nous rapporte en arrière et en avant. Donc on voit le temps qui passe. C'était l'idée de ces prototypes ici. Donc, qu'est-ce que c'est l'objectif de vous montrer cette édition-là, de vous donner une idée de ce que le numérique nous permet de faire et nous permettra de faire. Parce qu'on n'a pas fini d'explorer les possibilités que le web et le numérique nous donnent, mais c'est une idée des nouvelles possibilités qu'ils nous ont offertes. Donc, ça c'est pourquoi le faire. Mais maintenant, on va regarder comment le faire. La première fois, comment faire des éditions numériques? La première fois, chose qu'on peut dire, on peut faire des PDF. Donc, on a fait l'imprimerie, on a des livres, on fait un PDF, une image du texte, et c'est une édition numérique. C'est la façon la plus facile, mais c'est vraiment pas rien à voir avec les choses qu'on a vues auparavant. Mais on peut faire une autre façon, que c'est de construire des sites web, une interface interactive qui nous permet de travailler avec les textes d'une façon comme un labo. Et, ou, bon, les deux. On peut faire des textes qu'on peut imprimer très bien, donc on peut les lire dans les trains ou dans la salle de bain. Et dans le même temps, on peut faire des versions interactives pour l'étudier quand on fait. In tous les cas, quel que ce soit le choix que vous voulez faire, la première chose à faire, c'est d'encoder les textes, même si vous ne savez pas. Dans tous les cas, il faut encoder. Qu'est-ce que c'est l'encodage des textes? L'encodage, c'est une façon d'ajouter des choses, des affaires, on appelle les codes, les balises, qui nous permet de distinguer des mots, des séquences, des lettres par rapport aux autres, parce qu'ils sont spéciaux de quelque façon. Ou pour décrire la structuration du texte, ou des éléments paratextuels, l'espace, comment ils se sont organisés. Et normalement, l'encodage du texte, c'est représenté pour ce qu'on appelle les markup. Donc, qu'est-ce que c'est les markup? C'est un système pour de donner des étiquettes, des balises à des séquences de mots, et une façon de rendre explicite ce que c'est implicite dans le texte. Vous pensez que le texte va être processé, il devient processable par l'ordinateur, qui n'est pas capable de distinguer une séquence de l'autre, qui ne comprend pas pourquoi, par exemple, on met une lettre majuscule ou une lettre minuscule. Parce que c'est le mot d'une personne, c'est le nom d'une ville, c'est le nom d'un fleuve. Et on sait qu'il y a la possibilité d'avoir de l'ambiguïté, ça. Quand on lit les textes, on est justement capable de détecter la différence, pourquoi un mot s'est capitalisé, peut-être, parce que c'est au bout d'une phrase, ou pourquoi c'est un nom de quelque chose de notable. Mais l'ordinateur n'est pas capable de faire ça. Donc, c'est un système pour enseigner l'ordinateur à lire le texte d'une façon intelligente. Et un système pour ajouter de l'information, enrichir la séquence des mots avec de l'information. Et pour classifier ces informations, une façon qu'on peut la retrouver, on peut faire des index, et c'est ça. Le concept de markup, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas inventé avec l'ordinateur. Il y avait aussi auparavant, et c'était la combinaison des signes, des symboles que les éditeurs normalement ajoutaient aux épreuves imprimées pour marquer quelque chose, faire des corrections, pour dire ça c'est un titre, il faut le faire plus grand, plus petit. Et je suis sûre que la plupart de vous auraient déjà fait les corrections d'épreuves imprimées, vous savez ce que je veux dire. Et même les markups, c'est encore plus vieux, parce qu'on peut appeler la ponctuation, le système paragraphématique, on disait comme ça, je pense, en français, en italien on dit comme ça, le système de dessin diacritique qui nous permet de structurer les textes. Et ce sont, on peut l'appeler un markup aussi. Et il y a aussi des autres conventions éditoriales qu'on utilise dans le livre, qui sont des signes conventionnels. Par exemple, quelque chose comme ça, ça va être familial à la plupart d'entre vous, que c'est la façon de corriger, d'ajouter des notes à marge, d'imprimer les notes de correction. Ça, c'est du markup. Et chaque des marques là-bas, on l'appelle en anglais tag. Je ne sais pas si on dit balise aussi.
Oui.
Ah, balise en français. Mm-hmm. OK. Pour c'est ça aussi. Peut-être.
Rétrospectivement, oui.
Rétrospectivement, oui. Et puis aussi, c'est des autres dessins, c'est la convention de Leyde qui s'est surtout connue par les chercheurs de matières classiques, qui c'est une façon de reproduire des problèmes qu'on trouve dans les sources, comme les papyrus. Donc, les guillemets, il y a des parenthèses carrées pour nous dire, ou aiguës qui nous disent c'est quelque chose que j'ai ajouté, c'est quelque chose que j'ai effacé du texte. C'est du markup. Mais markup, c'est quelque chose d'autre. Comme vous voyez ici, c'est pas facile à lire ça, mais c'est la façon qu'il était écrit. Il était écrit dans les périodes classiques, ça, c'est la façon qu'on écrivait. Ou maintenant, on préfère de voir comme ça. C'est un peu plus facile, hein? Mais c'est tout la structuration, l'espace planche, aller à la ligne, utiliser les cursives, ce sont des conventions qu'on considère au moment qu'on parle, que c'est quelque chose de normal. Mais ce n'est pas normal. C'est quelque chose qu'on a appris, on a introduit dans notre façon de lire pendant deux milliards des années, pendant des siècles, tout à petit. Donc, ce qu'on pense que c'est normal, c'est quelque chose qu'on a entraîné, qu'on a appris à utiliser et considérer normal. Donc, ce n'est pas difficile à comprendre pourquoi l'ordinateur a des problèmes. Et différentes sessions qu'on a fait là, c'est pour aider nous, les humains, à lire et à comprendre. C'est pas pour aider l'ordinateur. Donc, ils ne sont pas pensés ça, à ces conventions qu'on voit à la droite de l'écran pour des machines. C'est pensé pour les humains. Donc, il y a de différentes façons d'encoder les textes. Et le plus normal, ce que vous utilisez tous les jours, ça, que vous savez, c'est les VisiVig. Je ne sais pas si on le prononçait comme ça en français. Donc, ce sont des outils comme Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice et choses comme ça, qui nous permet d'interagir avec la machine, une interface qui ce sera la même qu'on imprimera. Okay? Donc, les textes, on les prépare sur une page virtuelle dans l'écran, que c'est la même qui si votre ordinateur marche bien, si l'imprimerie marche bien, est connectée au réseau, il y a les papiers, va être imprimé exactement de la même façon. Okay? Ou bien, il y a une autre façon de faire le codage, qui est celui-là qu'on appelle TaskView, où on voit les balises. Parce que si vous ne savez pas, même Word a des balises. Ils sont cachés, mais ils sont là. OK? Et dans il y a des langages de markup qui se divisent en deux parties. Normalement, on l'appelle les procédurales et les génériques. On va les voir ensemble. Donc, les word processors, Office et Word, ils sont basés dans la possibilité de reproduire dans l'écran ce qu'on verra à l'écrit. Okay, à l'imprimer. Donc, ils sont basés dans les mêmes conventions qu'on a développées pour nous aider à lire. Parce qu'ils reproduisent comme ils sont, comme une icône, comme une image. Okay? Et il y a des ambiguïtés qui sont dans ce code-là, parce qu'il est pensé pour nous à lire. Par exemple, comme je disais, pourquoi on utilise une capitalisation, il y a plusieurs raisons pourquoi le faire. La même chose pour les cursives. On a des différentes raisons pour le faire. C'est le titre d'un bouquin, c'est dans une langue étrangère, c'est quelque chose qu'on voulait stresser de quelque façon. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on utilise différentes variantes de notre fonte. Et donc, la seule raison pour utiliser Word, c'est pour imprimer. Donc, il y a différentes versions qui semblent sont plus ou moins les mêmes. C'est une question d'habitude ou de philosophie lesquelles on choisit. On choisit la version propriétaire de Microsoft ou on choisit la version ouverte de OpenOffice. Tous les deux, en tout cas, elles sont des versions qui ont de l'XML caché. Okay. On va voir ce que c'est l'XML plus tard, mais j'ai introduit maintenant le mot XML. Bon, maintenant je vais vous montrer quelque chose que peut-être vous êtes de la peur, je ne sais pas, mais si vous voulez échapper, c'est le moment. Parce que c'est le moment où vous voyez, j'ai montré du code. Ok? Tout le monde est confortable avec l'idée de voir du code? Ok. Respirez très bien. Retenez. Voilà. Donc, ça, c'est les tags on view. La version on ne voit pas la page blanche, tout belle, alignée à droite avec les notes au bout de la page, mais on voit des codes, des symboles qui disent quelque chose. Ici, on voit trois différents types de langage. On va voir, il y a une slash, les mots et, il y a des parenthèses, je ne sais pas comment on l'appelle.
Des choux.
Ça, c'est des accolades.
Les accolades.
Et les autres, les choses. OK, les accolades. Ça, c'est la version tech. C'est similaire, c'est la version LaTeX. Ils sont connectés l'un avec l'autre, plus ou moins comme HTML, XML. Et puis ici, il y a de l'HTML. OK? Ça, c'est du code. C'est pas si terrible. il y a quelque chose qu'on peut vivre avec, peut-être. Ok. Donc, on commence par les premiers deux, c'est tech. La tech, c'est une... on appelle un langage de marquage procédural parce qu'il a des codes qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire avec une particulière séquence de caractères. Et normalement, quoi faire, c'est de l'imprimer. L'imprimer est vraiment joli, c'est une façon, un langage pour la préparation des documents qui sont très belles à imprimer. Et c'est particulièrement utilisé dans les sciences dures pour la production des documentations techniques ou bien pour la production de livres et des articles qui vont envoyer à des revues scientifiques. Donc c'est utilisé, j'ai fait mon thèse doctorale en LaTeX. Et tech, LaTeX un peu. Et ça qui, comment il se présente à vous. Il y a du texte qu'ils vont pas lire. Is a document preparation system for, et voilà. Ça, c'est du langage naturel. Mais il y a aussi des codes comme ça. And equine array, and document, document class, et tout ça. Donc, il y a une mixture des codes et des mots. Et les codes sont introduits normalement par une slash. Ça, c'est un principe que c'est normal par les langages d'encodage. Parce qu'il nous donne la possibilité de distinguer une string, une séquence de lettres comme un comment, quelque chose à faire. Ok, merci. Et vous voyez, c'est la façon qu'il sait, c'est le même document, mais quand il est processé. Donc avec ça, on introduit un autre concept, que c'est la séparation de la source où on écrit, où on met notre balise, notre code, et c'est ce qu'on peut afficher à la fin. Il y a un processus qui processe ça et produit cela. Et la tech et tech, c'est vraiment bien fait pour la production de langages mathématiques et scientifiques. Ils sont passés pour faire des formatations, des formules mathématiques. Le langage le plus normal que tout le monde connaît, parce que tout le monde va dans l'Internet, et c'est l'HTML, peut-être on ne savait pas comment l'écrire, mais ça c'est que toutes les pages web, presque toutes, sont écrites en HTML et quelque chose d'autre normalement. Ça veut dire Hypertext Markup Language, et il y a des balises qui nous permettent de créer des liens, ok, l'hyperlink. Donc ça c'est que c'est l'HTML. Ça a été inventé par Berners-Lee. Quand ils ont inventé les World Wide Web en 1993, le monde existait auparavant de web. C'est incroyable de penser aujourd'hui, mais c'est ça. Il y avait un moment où on n'avait pas de web. Okay? Ça, c'est la façon que les HTML se montrent et la source. Donc, il y a des balises qui sont faites avec des parenthèses aiguës, comme ça. Ok, donc HTML, ils ouvrent là-bas, ils se ferment là-bas. On va voir des détails de ça après. Et il y a des textes, un texte, ok, comme ça. Si on les processe, on le voit dans une fenêtre dans notre navigateur, dans browser, c'est Firefox, celui-là. Ça, c'est la façon qu'il se présente. Donc, il y a des mots, il y a, vous voyez quelque chose de bleu, là, qui a souligné. C'est un lien, vous connaissez ça, donc... vous me pardonnerez si je vais vraiment lentement, on ne sait pas où il y a, que c'est la compétence de tout le monde, donc je vais vraiment petit à petit. Donc, on a vu trois langages, et on voit que pour faire les cursives, on a des codes comme ça, ok, les techs utilisent ET, ah non, IT, IT, ok, c'est l'anglais qui est mieux bouche, la tech utilise ENF, like emphasis, et HTML en I comme italics. Okay? Donc, tous les trois représentent les cursives comme ça. Comme vous voyez, encore une fois, il y a une tentative d'expliquer comment la particulière séquence de lettres va se montrer, mais pas ce qu'elle est. Pourquoi on veut l'avoir en cursive. Okay? L'ambiguïté, même dans ces langages de markup comme celui-là, est préservée. Merci. Donc, qu'est-ce que l'utilisation de faire, pourquoi on va encoder des textes comme ça? Bon, pour imprimer, donc, si vous avez besoin de faire, d'écrire un texte avec des formules mathématiques, vous pouvez vous essayer d'utiliser Word, il faut du courage. C'est presque impossible. Donc, c'est la raison que la plupart des personnes qui travaillent dans les sciences utilisent une façon comme ça qu'ils appellent à faire des formulations, des formules mathématiques plus belles. Ça peut changer dans les 3-4 années passées, mais c'est toujours un peu risqué d'utiliser comme ça. Des autres choses qu'on peut faire, c'est pour afficher sur l'écran. Okay? Donc, les deux raisons pour utiliser ça, c'est pour afficher sur l'écran ou bien pour imprimer. Donc. Mais on a besoin parfois de faire des choses différentes parce que si on fait, comme on disait, ajouter de l'information, ce système-là, ce n'est pas vraiment suitable, non? Adapté, merci. Donc, on va voir des autres langages qu'on appelle les Generic Markup Language. Et on commence par HTML, qui a été inventé il y a 20 ans, 30 ans, presque. Il a devenu 30 ans. Il a été devenu un standard en 1986, donc il y a beaucoup de temps. Et en termes d'informatique, c'est vraiment la préhistoire. Ce qui est vraiment grand en HTML et qui nous permet de créer notre balise à nous et d'écrire ce qu'on voit. La raison pour laquelle une particulière séquence de mots est en italique. Donc ici, j'ai mis trois exemples. La première nous dit qui est un titre d'un texte. Le deuxième, qui a raison parce que c'est écrit dans une langue étrangère. Et la dernière, parce que c'est quelque chose qu'on veut souligner de quelque façon, parce que c'est un mot particulièrement difficile, on veut donner une explication. Merci. Donc, les markups, dans ces cas-là, c'est plus intéressant pour la recherche. Parce que ce n'est pas seulement l'imprimer qui est intéressant, mais c'est intéressant d'analyser les mots, mot par mot, et dire quelque chose à propos de ces mots-là. Quelque chose qui nous va servir pour faire de la recherche, de linguistique, sémantique, et voilà, et tout le reste que vous pensez. OK? Et qu'est-ce que c'est de vraiment intéressant de ce HTML qui nous permet de séparer la description de ce que c'est la séquence des mots, et c'est une langue étrangère, de sa représentation. Et puis on peut décider, peut-être dans un affichage, de l'avoir en bleu, une autre affichage de l'avoir en cursive, et la troisième de ne voir pas du tout, et d'effacer complètement. Donc on a la possibilité de la représenter d'une façon différente, tout le temps. Et il est indépendant depuis de l'hardware, du software, et c'est vraiment intéressant pour la préservation longue durée. Mais il y a des problèmes aussi qu'il est trop flexible, flexible, c'est pas un bon mot, flexible, c'est mieux, merci, et est trop compliqué. Et donc, il y avait, pour s'apprendre l'HTML, il y avait deux bouquins qui étaient comme ça, parce qu'on pouvait vraiment faire des choses incroyables. C'était aussi compliqué que 15 années après qu'ils ont inventé, il n'y avait pas des outils qui utilisaient HTML parce que c'était trop compliqué de développer des outils génériques. Donc, on a inventé la simplification de HTML qui s'appelle XML, qui s'est inventé en 1999 et il a été développé avec le support de TUI. On verra après qu'est-ce que c'est le TUI, parce que l'un des éditeurs de TUI est l'un des inventeurs d'XML. Et ils arrivaient pas seulement tout seuls, mais avec toute une famille, ces familles nombreuses de langages qui sert pour traiter, pour processer XML. Ok. Donc, c'est ce que c'est cool avec XML, c'est la possibilité qu'on peut l'afficher dans le web et faire de la, créer des livres imprimables d'une même source. Si on a une source où on ajoute nos codages et puis après on peut faire ce que c'est. On peut l'afficher de la même façon dans tous les supports électroniques qu'on aime. C'était à la conférence TOI à Rome, il y a 2 mois, qu'ils nous ont présenté Oxygen pour iPad. Donc, la possibilité de faire du codage XML sur l'iPad. Je pense que la prochaine sera de l'iPhone, on peut faire du codage XML. Oui, voilà. Il y a des personnes comme moi qui aiment bien faire ça. Et la possibilité de produire des différentes versions, différents produits, particulièrement quand on pense à la publication dans le numérique. Normalement, ce jour-là, on produit des EPUB, des PDF, un HTML, une version Kindle, Mobi, et voilà. Toutes les versions peuvent être créées comme ça. Ou presque. La magie qui fait créer tout ça, ce n'est pas une magie, s'appelle XSLT, c'est l'un des fils des XML, qui se parle la famille, part de la famille, qui s'appelle Extensible Stylesheet Language, qui nous permet de prendre, de processer l'XML et de le transformer en tous les wonderful, les merveilleuses choses que vous avez vues un minute avant. Ok? Donc, il nous présente la possibilité d'extraire les informations qu'on a encodées dans le texte et les présenter d'une façon différente. On voit des exemples maintenant. Oui. Donc, c'est cet exemple-là, c'est peut-être ce qu'on appelle les pages de correction. Donc, c'est un exemple d'un projet qu'on a développé au King's College qui s'appelle Inscription of Aphrodisias. Et ici, il y avait 2 000 inscriptions qui étaient transcrites du grec et étaient contrôlées à différents niveaux. Donc, cette extraction-là nous permettait d'extraire seulement des informations de tous les fichiers encodés et voir qui a fait la dernière correction, l'équipe des documents, on a des informations statistiques. Ok? Donc, c'est un exemple que je vais vous démontrer. C'est un texte d'un projet que j'ai travaillé qui s'appelle Landscape. Donc, il y a tous les mots de texte en Old English, en anglais ancien, qui a été marqué mot par mot avec un élément qui s'appelle Word, W, et qui a été lématisé et traduit en anglais moderne. Okay? Avec un codage comme celui-là, on a extrait les informations d'une façon tabulaire pour les contrôler, pour les présenter. Donc, on a créé la liste de qu'on appelle check-in page, des possibilités pour voir le même texte qu'il y avait 3 000 de ces pages, comme vous avez vu. Et donc, il fallait contrôler qu'il était encodé d'une façon régulière, qu'il n'y avait pas des erreurs dans tous les matériels qu'on a fait. Donc, on a créé différentes vues du texte. Merci. Celui-là, c'est la possibilité de regarder l'attribution de la lématisation. Donc, on a listé tous les mots et on a vu quel était l'élément qu'on a attribué pour voir s'il y avait des erreurs. Et ça, c'est le texte où il avait fait. OK? La prochaine, c'est l'entrée de l'apparatus, quand il y avait variantes différentes, donc on ne pouvait pas savoir, et ça, c'est la toute la version, et ça, c'est les témoins qui disaient où la version qui n'était pas accueillie dans les textes était. Okay? C'est cela, ce sont les fractions, les mots qu'on a ajoutés, que les éditeurs ont ajoutés, et donc c'est le contexte où elle était ajoutée pour voir, de contrôler comment ça s'est passé. Merci. Ici, c'est tous les mots qui étaient effacés dans les manuscrits pour les voir s'il y avait des régularités, s'il y avait la possibilité de détecter statistiquement que c'était là. Les erreurs faites par les scribes. Ok. Et c'est ça quand on se présente les projets dans les sites web. On a une version qu'on appelle semi-diplomatique, qui est une version qui essaie de représenter le plus possible la version du manuscrit. Et après, on a la prochaine, s'il vous plaît. La version qu'on appelle edited, c'est une version qui sait pour lire, donc les erreurs sont effacées, les abréviations sont expandues, et voilà. Okay. Et ici, on l'appelle la version Lingelang Glossed. Donc, il y a mot par mot dans le texte, et au-dessus, on a les mains, et au-dessus, la traduction. Donc, on peut voir mot par mot l'analyse linguistique qu'on a fait. OK? Donc, le problème avec XML, comme on disait, c'est qu'il c'est trop, y a les risques, c'est que tous les textes sont différents. Et donc, on peut, et tous les chercheurs peuvent inventer leur vocabulaire, leur balise pour décrire le même phénomène qu'on trouve dans les manuscrits. Le second problème qu'on a, c'est le problème du chevauchement, comme on disait auparavant, le fait que XML nous fait, on verra les détails, mais il nous fait passer au texte comme hiérarchique. Comme une boîte roue les matrioshkas.
Les poupées,
c'est chercher les mots poupées. Qu'on a la plus grande, la plus petite, ils sont vraiment l'un dans de l'autre. Et l'autre chose qu'on n'aime pas faire quand on commence à marquer, on se demande qu'est-ce qu'on marque, qu'est-ce qu'on met comme balise dans notre texte. Et on met tout. Donc, parce que tout est là, donc on marque tout, et donc on fait un markup que c'est impossible à lire, c'est impossible à ménager après, parce qu'il y a trop d'informations. OK? Donc, pour résoudre les premiers des problèmes qu'on a vus là, que c'est celui-là de la prolifération des vocabulaires XML, c'est la raison que la théorie a été inventée. Il était 1986. Donc, ils ont été inventés et pensés dans la même année que HTML a devenu un standard. Donc, il y a une initiative qui a presque 30 ans au moment, et un peu moins, mais dans 3 ans, on va être à 30. Et c'est un groupe de chercheurs internationaux qui a décidé d'inventer un vocabulaire pour parler le même langage. Okay? Donc, comme XML est so flexible, il nous permettait de faire ce que vous voulez et d'échanger les noms et tout ça. Ils ont inventé un standard qui nous permet de parler le même langage. Okay? Ils ont au moment 500 de ces balises qui ont été définies. Mm-hmm. Donc, et c'est pourquoi on l'utilise pour échanger nos données, pour échanger nos fichiers, pour parler avec nos collègues dans d'autres pays en savant ce qu'on dit, parce qu'on utilise les mêmes concepts. Donc, un langage de markup, un vocabulaire de markup, c'est une conceptualisation, c'est pas seulement une set de balises. Donc, c'est pas seulement une sélection de techniques, mais c'est une conceptualisation d'une réalité. OK? Donc, il nous a permis de créer des millions de textes qui sont au moment encodés en théorie et que, pour lesquels c'est possible de créer des outils. Et c'est possible de penser qu'ils vont être sauvés dans le futur. C'est le problème du numérique, c'est toujours penser au futur parce que dans 5 années, peut-être le format va disparaître. Mais, car il y a une critical mass, il y a millions de textes qui sont marqués en théorie. Donc, on pense qu'on a créé aussi l'intérêt pour les convertir. Du moment où il y a un changement des technologies, un changement des idées. Le XML, c'est un format qui peut se lire n'importe où. Tous les éditeurs peuvent le lire, mais la sémantique qui voyage avec lui, là, ce n'est pas même la même chose. Donc, l'effet qu'il y en a millions, nous permet de penser que quelqu'un va penser une façon de les transporter dans une autre technologie s'il fallait faire. OK? Ça, c'est le site web. de théorie et après. Donc, quand je disais la théorie, c'est pas seulement un format pour la représentation des textes, mais c'est un format de recherche. Donc, il y a beaucoup de critiques pour qui disent que la théorie c'est trop flexible, elle est trop riche, il y a trop des éléments, et c'est vrai. Mais la raison pour laquelle c'est il n'est pas pensé pour imprimer, il n'est pas pensé pour faire un site web, il n'est pas pensé pour faire la recherche linguistique, il n'est pas pensé pour faire la recherche critique littéraire, il est pensé pour tout ça et pour quelque chose d'autre. Donc la façon c'est qu'on a besoin d'avoir vraiment un outil flexible qui nous permet de faire les choses que on veut faire. Donc c'est pas pensé pour faire créer une page qui est très belle, mais pensé pour faire de la recherche avec ces pages là. Ok, et il nous a donné la possibilité, comme dans la représentation des manuscrits particulièrement, la possibilité de faire des analyses et de recherches qu'on n'était pas capable de faire auparavant, comme vous avez vu. Donc le problème de théorie, c'est que c'est vraiment pas facile à s'apprendre la théorie quand on commence. Et le second problème, il y a beaucoup de, il faut aller au training, il faut faire de la formation, et il y a des outils qui sont en ligne, on va les voir, mais c'est vraiment pas facile sans avoir un petit support local. Le second problème est qu'est-ce qu'on va faire au moment qu'on s'en a pris à faire le codage. Faire le codage, c'est vraiment facile. Parce que vous verrez, il y a deux rules, deux règles, il n'y a pas plus de que ça. Donc, quand on a appris les deux règles, on fait du codage. Même si on veut faire la théorie très bien, et on va s'apprendre 500 éléments, vous pensez que quand vous apprenez une langue, une autre étrangère, vous apprenez milliards de mots, ce n'est pas 500. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'apprendre une langue dans le langage naturel. Et normalement, vous allez seulement à vous apprendre une centaine, et dans son cas, pas plus de 50 éléments pour faire le travail que vous devez faire. Donc, ce n'est pas vraiment difficile, c'est au moment, au tout début, c'est un peu compliqué, mais après, c'est vraiment facile. Le problème, c'est quoi faire quand on a fait le codage. Parce que le texte, quand il est encodé, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'imprimer, pour faire les sites web, pour créer les pubs, pour créer les PDF, toutes les choses qu'on a dit auparavant, il faut se prendre aussi l'XSLT, et aussi l'HTML, et aussi les formats EPUB, et on peut continuer. Donc, XML, c'est seulement un format de données, c'est pas un format de présentation. C'est représentation, mais pas de présentation. Ok? Donc, ça, c'est le problème. Quoi faire? Il n'y a pas beaucoup d'outils au moment qui, comme ça, nous crée tous ces affichages magnifiques, ces versions fantastiques, comme si c'était de la magie. Donc, c'est plus problématique. Il nous faut trouver un support. Et, comme je disais, les outils qui vont se créer deviennent un peu vieux. L'XML évolue lentement, mais il évolue, et on est en train de voir dans le passé, il y a 2-3 ans, qu'on voit que l'XML c'est pas cool. Donc il y a beaucoup de nouveaux formats qui arrivent, qui disent que c'est mieux, c'est l'RDF, JSON et tout ça, qui vont, c'est plus souple, c'est plus agile, c'est plus facile, et donc on voit déjà que le monde est en train d'aller d'une autre direction. Ok? L'XML va rester peut-être dans le futur, on pense comme un format de stockage, archivage, mais peut-être il va être d'autres formalismes qui vont changer. Donc tout le travail de la théorie va être converti, et voilà. Donc il y a un travail beaucoup gros à faire. Merci. Ok, ça c'était la première partie.